Attachez notre deuxième cours sur le chapitre, d'accord, sur le chapitre 16. On est à la page 215, ici, là, chapitre 16, en bas, et en haut, pardon, et dans le Tanya, on est à la page 42. Ok. Donc, où on en est dans le chapitre 16? Chapitre 16, on va essayer de pas trop avancer, hein, comme plusieurs qui sont pas là, on va essayer de pas trop avancer.
Au contraire.
D'accord? Donc on va essayer de non, on va essayer de plus de prendre plus le temps d'approfondir un peu plus que d'habitude. D'accord? On a expliqué dans le chapitre précédent, dans le chapitre 15, qu'en fait très rapidement, je fais un résumé en deux minutes, on a expliqué qu'il y a deux niveaux dans les bénonymes. Il y a le bénoni qui sert Dieu et le bénoni qui ne sert pas Dieu. Concrètement, ça veut dire quoi? Évidemment que les deux sont des juifs qui sont shomer Torah et mitzvot sans aucun problème et qui ne font pas d'averot. Mais un des Benoni, il ne sert pas Dieu. Pourquoi il ne sert pas Dieu? Parce que finalement, tout ce qu'il fait, c'est par routine. Donc, on ne peut pas parler de service de Dieu. Il se bat contre personne. Il a peut-être servi Dieu dans le passé, mais maintenant, c'est de la routine. Ça, c'est la première catégorie. Qui est une catégorie assez rare, mais qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens que leur Yetzara les attaque très, très, très rarement. Et pourtant, ce n'est pas des tzadikis, mais bon, leur Yetzara, ils le sont presque pas. Première catégorie. Deuxième catégorie, bonsoir. On a expliqué qu'on a la majorité des gens qui sont dans cette catégorie, des benonymes qui se font attaquer par leur Yetzara. Et donc celui-là, c'est constamment, c'est la guerre. Et lui, on peut dire qu'il sert Dieu, parce qu'à chaque fois, bah, il fait comme un serviteur qu'à chaque fois, il en a marre de son patron, et s'il pouvait s'enfuir, son maître, même pas son patron, s'il pouvait, parce que le patron il paye au moins, s'il pouvait s'enfuir, il l'aurait fait, et à chaque fois, il n'a pas le choix, parce que c'est son maître, et bien la même chose, la majorité des benonymes, en fait, la majorité des gens comme nous, on est comme des esclaves. Ça veut dire que le Yetzara, chaque fois, il t'attaque, et à chaque fois, comme un esclave, t'as pas le choix, et tu casses ton Yetzara, et tu avances, même quand c'est pas facile. D'accord? Alors, juste deux secondes, je termine le résumé. Donc, ça, c'est ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 15. Ça c'était le thème chapitre 15, les deux types de bénédiction. Dans le chapitre 16, qu'on a commencé la semaine dernière, d'accord? Ce soir, dans le chapitre 16, qu'on a expliqué la semaine dernière, il n'y a pas cette semaine. Cette semaine, directement, le spirituel. Alors, non, Marcel, il est pas là. Cette semaine, dans le chapitre 16, d'accord, on a commencé donc à expliquer, on a commencé à donner des techniques au Benoni. Et justement, on s'adresse à ce fameux Benoni, celui qui est comme nous, quoi. Ça veut dire que son Yetzara lui casse les pieds constamment. Et qu'il n'en peut plus, il en a marre. Alors, à ce Benoni, on lui donne des techniques. On va lui donner des techniques, mais ça, on va en avoir plusieurs. Parce qu'il faut savoir qu'en vérité, l'ouvrage du Tanya s'adresse principalement à ce Benoni que je viens de vous dire, celui qui se bat contre son Yetzara. C'est-à-dire que tout le but du développement qu'on a expliqué du Tzadik, du Racha, etc., du Benoni, c'est pour nous amener à ce Benoni qu'on vient de parler. Et c'est pour ça qu'après tous les autres chapitres vont tourner autour de ce personnage qui est le Benoni.
Les autres, il n'y a rien à dire.
Voilà, le Racha, bah, c'est un Racha, d'accord. Le Tzadik, c'est un Tzadik. Le Benoni, routinier, bah, il est routinier. Finalement, celui qui a vraiment besoin d'aide, c'est celui qui veut bien faire, mais qui n'arrive pas. D'accord? C'est ça, en vérité, le plus dur. Celui qui fait mal, il fait mal. Celui qui fait bien, il fait bien. Mais c'est celui qui a du mal, mais qui veut bien faire, mais qui n'arrive pas. Donc, il nous faut des techniques. Comment faire pour bien faire? Alors, on a commencé à donner deux techniques. On sort. D'accord? D'accord? Deux grands principes. Premier grand principe qu'on a expliqué au début du chapitre 16, il dit, on s'adresse au Benoni, on lui dit, écoute, toi, ce que tu dois savoir, c'est que l'essentiel de ton travail, ça doit être quoi? Ça doit être que tu dois essayer de tout faire pour casser ton Yetzara. C'est pas forcément d'avoir du résultat. Ça veut dire, il faut que tu enlèves ce mot dans ta tête, avoir du résultat. Bien sûr qu'on doit essayer d'avoir du résultat. Bien sûr, c'est sûr. Mais on lui dit au Benoni, à ce Benoni, on lui dit, écoute, ne calcule pas l'ampleur de ton action par rapport au résultat que tu as eu dans ton travail. Ne regarde pas les notes. D'accord? Parce que je viens d'une réunion de parents d'élèves. Hein,
mais alors, comment
ça va refracher mes notes?
Comment on lit sans arrêt? Faut pas regarder les notes?
Voilà, c'est le premier principe qu'on dit au Benoni. On lui dit, ne regarde pas les notes.
Mais comment on sait si d'accord on avance ou pas?
Toi, tu dois regarder les efforts que tu as faits. Si tu vois que la semaine dernière j'ai ça et cette semaine j'ai avancé, eh ben c'est bien. Même si t'as pas eu dit, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on dit au Benoni. Ça, c'est le premier klal, premier principe qu'on dit au Benoni. On lui dit, dans ton cœur, tu as le Yetzara, tu as le Yetzertov. Si t'as réussi, chaque fois que t'as réussi à mettre une Trera au Yetzara, et qu'hop, tu l'as pas écouté, c'est ça de gagner. Ça, c'est un grand principe dans la vie. Parce que le Yetzara, il utilise ça pour nous casser à chaque fois. Quand une personne, il essaye de bien faire, et une fois il tombe, ça, il dit, ah, t'as vu, je t'avais dit, t'es un nul. Et toi, tu déprimes, et quand tu déprimes, et ben, c'est fini, tu glisses complètement, tu casses la figure. Alors qu'en réalité, non. Faut être sûr de soi et se dire que bon, je fais ce que je peux. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais chaque fois que je gagne, j'ai gagné. Ça, c'est le premier principe qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'on a dit au Benoni. Deuxième principe qu'on a dit au Benoni. Le Benoni dit, bon, d'accord, j'ai bien compris. Tu m'as dit, ce qui compte, c'est de, ce qui compte, c'est d'essayer. Ce qui compte, c'est à chaque fois des micro-victoires, j'ai bien compris. Mais le Benoni dit, mais finalement, comment j'ai fait pour casser mon Yetzara? Mon Yetzara, il me présente des choses concrètes. Il présente des avérotes qui sont devant moi. Toi, je parle de la Kdusha, je parle de la Torah et des mitzvot, des choses qui sont abstraites, des choses qui sont pas écrites clairement. J'arrive pas. C'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On avait expliqué la semaine dernière que nous, on est dans la Chassidut Chabad. Et que la Chassidut Chabad insiste beaucoup sur la réflexion. C'est-à-dire, elle te dit, on va s'adresser à ce Benoni, on lui dit, écoute, tu te plains que t'arrives pas à casser ton Yetzara, tu te plains que c'est trop abstrait pour toi, eh ben, il faut que tu réfléchisses un paquet. Il faut que tu réfléchisses, tu réfléchisses, tu réfléchisses, tu réfléchisses beaucoup à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est là qu'est le deuxième principe que ce Benoni dit, et là, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, ce Benoni dit, oui, mais, je réfléchis à la grandeur de Dieu, mais j'ai l'impression que c'est abstrait, j'ai l'impression que je me mens, quoi, que je suis en train de m'auto-suggérer des choses, mais en vérité, c'est faux. Le bonhomme, il est là, il est en train de rêver, il est en train de fantasmer, je sais pas quoi. Mais il dit, mais attends, c'est pas moi. Je suis en train de faire quoi, là, que je joue. Donc, des fois, la personne, il se sent, pas qu'il se ment, il sent que c'est faux ce qu'il est en train de faire, il sent que c'est n'importe quoi. Et là vient le deuxième principe qu'on s'adresse au Benoni, qu'on va expliquer aujourd'hui, d'accord? Qu'on a commencé la semaine dernière, qu'on va expliquer aujourd'hui. Qui va s'adresser au Benoni et qui va lui dire, écoute, même si quand tu vas commencer à faire, quand tu vas commencer à réfléchir à Dieu, t'as l'impression que tu simules, et t'as l'impression que, c'est faux, d'accord? C'est pas grave, continue. Même si quand tu commences à mettre les tefillin, tu sens que bon, tu t'en as rien, ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Fais-le. Ça, c'est les deux grands principes qu'on donne au Benoni, mais attention, ce deuxième principe, on va devoir bien le développer. Il va nous donner aujourd'hui des techniques. Comment réfléchir à la grandeur de Dieu et comment cette réflexion peut amener à l'action. Mais déjà, on a compris les deux grandes lignes qui veulent nous amener ici. Il s'adresse, d'abord, on sait à qui il s'adresse. Il s'adresse au Benoni qui se bat avec son Yitzhara tous les jours. Et il a donné ces deux grands principes. Premièrement, ce qui compte, c'est de se battre. D'accord? Tant que tu te bats, c'est bien. Deuxièmement, il lui dit, n'aie pas peur, même si tu crois que tu simules et que bon, tu sais pas trop où ça va, c'est pas grave. Tant que tu es là, tu réfléchis et tu essayes, c'est bon. Essaye jusqu'au jour où ça décollera. Donc on va développer aujourd'hui, plus longuement, comment la réflexion peut changer une personne. Et ça, c'est vraiment le but de la Chassidut Chabad, puisqu'on explique en fait qu'il n'y a rien de mieux que la réflexion pour changer une personne. Je vais expliquer ce que je veux dire. Imaginez que par exemple, vous avez une personne qui ne réfléchit pas. D'accord, ne réfléchit pas spécialement. Et bon, il y a un copain à lui qui l'encourage, lui dit, viens avec moi, on va mettre les tefillines. Il a mis les tefillines. Bon, il est venu voir un rab, il a mis les tefillines, etc. Mais le bonhomme, il n'a pas réfléchi. S'il n'a pas réfléchi à ce qu'il a fait, ça partira aussi vite que c'est venu. Bonsoir. Parce que dans la Chassidut Chabad, on explique que ce qui n'est pas basé sur la réflexion ne tient pas. Ce qui n'est pas basé sur la réflexion, si ce n'est pas basé sur la réflexion, c'est basé sur quoi? C'est basé sur
le cœur.
Et le cœur, vous savez comment c'est le cœur? Le cœur, c'est binaire. Ça veut dire, tu peux aller voir quelqu'un dans ton cœur, tu peux dire, aujourd'hui, j'aime cette personne-là, j'aime ma femme, et demain, il peut dire, je déteste ma femme. Voilà, ça c'est le cœur. C'est-à-dire, le cœur, c'est binaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, le même cœur qui t'a dit maintenant, je suis tout chaud, j'ai envie de faire Torah mitzvot, et bien, ce même cœur, demain, il peut te dire, oh, c'est fini, je m'intéresse plus, ça me parle pas. C'est-à-dire que tout ce qui est basé sur le cœur, c'est instable. C'est pas stable. Si on veut quelque chose de durable, il faut que ce soit basé sur la réflexion.
Quelque part, c'est une bonne chose. Que moi, je vois, je connais bien sûr des cas, grâce à Lubavitch qui venait faire les tétéphines.
Évidemment,
si je mettais bon, allez bon,
pour faire. Évidemment que ça peut démarrer.
Ça finit par au bout de.
Ça, c'est seulement un starter.
C'est ce qui t'a permis de démarrer.
Oui, mais c'est bravo, grâce à.
Quand on est tout le temps dans la voiture, puisqu'on est bien quand on est en voiture, quand on est tout le temps au starter, qu'est-ce qui se passe avec la voiture?
Tu laisses-moi après.
C'est fini, ça marche pas.
C'est un problème.
Le starter, pas de problème, pourquoi pas au début, mais après il faut décoller par soi-même, sinon ça marche pas. D'accord. Ça veut dire, ce qu'il veut te dire ici, c'est que dans la Chassidut Chabad, comme on va expliquer longuement dans les mots, il te dit, le but, c'est, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir, il faut constamment se poser la question comment moi je me situe par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la Chassidut Chabad. Chassidut Chabad, ça on te dit tout doit passer par la réflexion. Quand tu as réfléchi quelque chose et que tu arrives à une conclusion par tes propres moyens, c'est fini, après ça bouge plus. C'est-à-dire même demain le Tsar t'attaque, bon, peut-être tu vas tomber, mais ça fait partie de toi. Tu as compris la chose fait partie de toi. Ça c'est ici qu'on voit l'importance de la réflexion. Alors on va aller dans les mots, donc il explique ici, alors Dehaïnu.
Page 215.
Voilà.
Oui. C'est en haut de la page 215.
Ah, en haut de la page 215.
Ah oui, d'accord.
Donc ici, en fait, Rabbi Shneur Zalman, il va nous expliquer comment la personne va faire pour réveiller l'amour qui est caché dans son cœur. Et ça, il faut la réflexion pour ça. Quoi, ça veut dire qu'il faut de la réflexion pour ça. On est obligé de réfléchir. Je ne sais pas si je vous ai donné l'exemple la semaine dernière. C'est quand, je ne sais pas moi. Exactement la semaine dernière, j'ai oublié. Mm. Je ne sais pas si je vous ai donné l'exemple. D'accord, c'est comme par exemple, on dit que c'est un conseil que beaucoup de rabbins me donnent. Quand par exemple, quelqu'un, il ne s'entend pas avec sa femme. Il accroche avec sa femme et ça ne marche pas. Il sent que ça ne marche pas. Il sent qu'il y a un problème. Il sent qu'il ne l'aime plus. Il sent qu'il n'aime plus. Il sent qu'il n'y a plus rien. Et des fois même pur. D'accord, des fois même carrément. Il sent même des fois qu'il a des sentiments de répulsion. Qu'est-ce que dit la Torah et qu'est-ce que dit le Rabbanim? Le Rabbanim dit que dans celle-là, la seule solution pour aider la personne, c'est la réflexion. D'accord? Il doit se poser la question, pardon? Alors, non, chas v'shalom, on ne va pas au guet. Non, mais sérieusement, avant de passer au guet, c'est quoi la solution? Mais c'est une solution qui marche, je vous promets que c'est une solution qui marche. Et je l'ai testé déjà avec plusieurs personnes, des gens qui avaient des problèmes, je vous dis, ça marche. D'accord? C'est quoi la solution? La solution, c'est que la Torah te dit qu'il faut que tu réfléchisses. Parce que tu as un amour caché envers ta femme. La preuve, c'est que tu t'es bien marié un jour avec elle. Et le jour où tu t'es marié avec elle, tu l'aimais. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le temps, chaque fois, tous les petits problèmes de la vie ont fait que cet amour-là a été couvert avec la crasse.
Il est enfoui.
Et donc maintenant, il est enfoui. Donc maintenant, on ne voit plus l'amour. Maintenant, on voit que la crasse qu'il y a dessus. Et donc, du coup, tu dis, je ne vois plus rien. Il n'y a que de la crasse. Donc, tu dis, il faut nettoyer. Mais c'est compliqué de nettoyer. Comment tu vas nettoyer? Elle dit, mais t'as vu ce qu'elle m'a fait? T'as vu ce qu'elle m'a fait? D'accord? Et c'est fini, ça part pas. Alors, la chassidoute, elle dit, voilà comment ça marche. Comment on va réveiller l'amour caché d'une personne? On va réveiller l'amour caché d'une personne par la réflexion. C'est quoi la réflexion? La réflexion, ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses, si je prends l'exemple de la femme, il faut que tu réfléchisses finalement, qu'est-ce que ça représente ma femme pour moi? Qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi je me suis marié? À quoi ça sert? Il faut tout remettre sur le plateau. Pourquoi je me suis marié avec elle? Qu'est-ce que je lui ai trouvé? D'accord? Alors des fois, il y a des gens, bon, ils n'arrivent pas à répondre à la question, mais c'est pas grave. Bon, j'ai pas dit qu'on arrive à trouver tout de suite la réponse à la question. C'est pas un problème.
Il faut aller chercher 60 ans en arrière.
T'as besoin de 60 ans. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2014, je me pose la question. Pourquoi je me suis marié avec elle? D'accord? Mais c'est une question sérieuse. Parce que des fois, les gens se posent la question. Une personne peut se dire, par exemple, peut-être que j'ai pas vu ses défauts quand je me suis marié avec elle. Et peut-être que si je savais ce défaut-là maintenant, je ne serais pas marié avec elle.
Bah, c'est sûr.
D'accord. Lui, il est sûr.
Bah, bien sûr, mais c'est normal.
Ça rassure pas si vous êtes sûr.
Parce que les centres d'intérêt, ils sont différents quand vous avez 20 ans. Et évidemment, les centres d'intérêt sont différents quand vous avez 30 ans.
Je ne parle pas de centre d'intérêt.
Mais c'est...
Je ne parle pas de centre d'intérêt. Je parle de comment je voyais le mariage.
Non, mais attendez. Le mariage est lié à des centres d'intérêt. S'il n'y a pas des centres d'intérêt communs, aujourd'hui, bon, on a des centres d'intérêt qui sont communs. Bon, on se lie, et puis 10 ans plus tard, ben, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Eh ben, chacun, il va de
mais
son côté.
Mais monsieur Benita, voilà. On ne se marie pas parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt.
Oui, sinon ben, vous allez
on se marie. Attendez, excusez-moi. On se marie pour avoir les mêmes centres d'intérêt. C'est un travail, ça se travaille. Enfin, bah évidemment, ça ne va pas tout seul. Il y a un travail de liaison à faire et ça prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, ce que je vais expliquer par là, c'est quoi? C'est que la chassidoute t'explique, mais pas que la chassidoute. Elle te dit que, rappelez-vous l'exemple de la semaine dernière, on a dit que, comment on dit un homme qui a des relations avec sa femme, on appelle ça yada, connaître sa femme. Parce qu'on te dit comme ça, on te dit, finalement, tout passe par la connaissance. Tout passe par la connaissance. Quand tu réfléchis à qu'est-ce que la chose représente pour moi, automatiquement, c'est ça ce qui va t'amener un vrai sentiment envers la chose. Et bien, c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Des fois, les gens, ils se plaignent, ils se disent, comme ce Benoni, ils disent, je sens rien, ça m'intéresse pas. C'est pas que je sais pas que j'aime pas Dieu, mais bon, ça me dit rien, ça me parle pas. Bon, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'on lui répond à ce Benoni? À ce Benoni, on lui répond, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses à la grandeur de Dieu, il faut que tu réfléchisses qu'est-ce que tout ça représente pour toi. Alors, je suis conscient que ce que je suis en train de vous dire, c'est abstrait, ça veut dire quoi réfléchir à la grandeur de Dieu? Alors, c'est pour ça qu'on a plusieurs lignes ici dans lesquelles il va rentrer un peu plus dans les détails. Et après, Bezrat Hashem, on va essayer de développer encore plus à l'oral, dans les mots. Dehaïnu, ça veut dire. Sha'alev mevin, que le cœur comprend. Beruach chorma ubina shebemocho. Avec l'esprit de sagesse, d'accord, et de compréhension qu'il y a dans le cerveau. Gdulat en sof baruchu. Le cœur va essayer de comprendre au travers du cerveau. Il va comprendre la grandeur de Dieu. Dekula kame kela chashiv mamash. Voilà déjà l'élément numéro 1. L'élément numéro 1, c'est essayer d'arriver à la conclusion qu'en vérité, devant Dieu, rien ne tient. Alors, je ne sais pas si j'ai donné l'exemple, mais ça veut dire, ça malheureusement, vous savez qu'on le sent souvent, ça, quand il y a des grands événements qui arrivent dans la vie, des événements graves qui arrivent dans la vie. Et là, les gens, ils sentent comment en vérité, devant un Kadosh Baruch Hu, on n'est rien du tout. Mais il n'y a pas besoin d'arriver à des moments comme ça. Des fois, à des moments dans la vie, on doit réfléchir comment je vais réveiller l'amour envers Akadosh Baruch Hu. Je vais réfléchir comment Akadosh Baruch Hu, je suis rien devant lui. Comment devant Akadosh Baruch Hu, rien ne vaut. Donc je me dis, on est tellement infime devant Akadosh Baruch Hu, Asher Alken, que c'est pour ça, Ya'atalo Idbarech, C'est normal que chaque âme voudra s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que là, il y a un grand chidouche. À mon avis, c'est un très grand chidouche qui dit ici. Très souvent, la relation que les gens ils ont envers Dieu, c'est presque qu'ils rendent un service à Dieu. Ça veut dire du style, oui, Dieu il m'a demandé, je veux lui faire une mitzvah, tu vois. Et c'est pour ça que bon, bah, des fois il dit, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas, ben bah, voilà, je fais une avéra, bon, mais j'ai fait une mitzvah avant. Ça veut dire que la relation qu'on a avec Dieu, mais c'est instinctivement, hein, ça veut dire, je dis bon, c'est quelque chose que quelque part que je rends service à Kadosh Baruch Hu. Là il te dit, c'est pas comme ça que devant la chose. Quand tu réfléchis, et c'est pareil envers la femme. Pourquoi très souvent le mari et la femme vont s'accrocher? Je reprends cet exemple parce que le Zohar compare beaucoup l'homme et la femme avec Akadosh Baruch Hu Israël. Pourquoi souvent un homme et une femme vont s'accrocher? Parce que l'homme, il pense que tout lui revient. Et la femme aussi, de son côté. Hein. Donc comme il pense que tout lui revient, il dit, mais voilà, pourquoi je pense que c'est ce qui m'attend? Quand je vais commencer à réfléchir, à quelle conclusion je vais arriver qu'en vérité, je ne dois pas penser seulement à qu'est-ce qu'on me doit à moi. Je vais penser à qu'est-ce que moi je dois donner. C'est ça, Ahava. Ahava, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais donner? Et donc, c'est ça ce qu'il te dit ici. Quand tu réfléchis par rapport à Kadosh Baruch Hu, tu vas pas réfléchir qu'est-ce que Dieu me doit. Tu vas réfléchir comment Dieu est tellement grand qu'en vérité, c'est déjà une chance que j'ai de pouvoir communiquer avec lui. Donc, déjà, quand tu commences à réfléchir comme ça, la donne a complètement changé. Ça veut dire, c'est pas moi qui est en position de force par rapport à Dieu, c'est Dieu qui est en position de force par rapport à moi. C'est à moi de lui rendre des comptes, et c'est moi qui est pas normal par rapport à lui. Donc, déjà, d'emblée, je me sens petit. D'accord? Déjà d'emblée, je sais que je dois écouter à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est un point très, 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 très important, ça. Vous savez que j'ai vu des fois même des gens très religieux, d'accord? Qui sont dans cette approche-là, que c'est Dieu me doit. Et dès que les choses vont pas comme ils vont, bah, pourquoi Dieu ne nous aide pas? Quoi, pourquoi? Qui tu es pour demander pourquoi? Parce que, dès le départ, l'approche n'est pas bonne. L'approche, elle est Dieu me doit. Dieu ne te doit rien du tout. C'est toi qui dois à Kadosh Baruch Hu. Et comme toi tu dois à Kadosh Baruch Hu, alors bon, des fois il t'a donné, des fois il t'a pas donné. Mais c'est moi qui dois à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit ici. Que d'emblée, comment j'éveille l'amour envers Kadosh Baruch Hu, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est que j'ai envie de m'approcher de quelqu'un. Si j'ai envie de m'approcher de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire je sens que lui il est très grand et moi je suis tout petit. Quand je dis j'aime quelque chose, ça veut dire que j'aime quelque chose parce que cette chose-là va me donner quelque chose que je n'ai pas. C'est ça l'amour. L'amour, c'est lui il a quelque chose que je n'ai pas, donc je vais m'approcher vers lui. Quand je dis que j'aime Dieu, ça veut dire Dieu est grand et moi je suis petit. Et donc je l'aime, ça veut dire je veux m'approcher vers lui parce qu'il est plus grand que moi. Là déjà on a une approche qui est complètement changée.
C'est par intérêt.
Non, c'est pas par intérêt. Si. Non, j'ai pas dit que c'est par intérêt. Tu as raison que là ça peut paraître par intérêt, mais c'est pas par intérêt. C'est déjà, au contraire, j'enlève l'intérêt. Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu me doit, je vois qu'est-ce que moi je dois à Dieu. Et comment en vérité Dieu est tellement grand, moi je suis tellement petit, et comment en vérité c'est moi qui donne la cadeau.
Mais Dieu ne doit rien.
Automatiquement, juste, exactement, Dieu ne doit rien. Automatiquement, quand tu réfléchis comme ça, tout de suite, déjà, automatiquement, tu as envie de t'approcher de Dieu. Parce que quand tu sens qu'il y a une distance avec quelque chose et qu'il est plus grand que toi, tu as envie de t'approcher. Pourquoi quand j'ai un grand rave, j'ai envie de m'approcher du grand rave? Parce que je sens que le rave est grand. Et je sens qu'il y a quelque chose à m'apprendre, je sens qu'il est plus grand que moi. Donc j'ai envie d'aller le voir. Si je sens que le rave est plus petit que moi, est-ce que j'ai envie d'aller le voir? Non, parce que je sens pas que j'ai besoin de lui. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes par rapport à que tu sens qu'il y a une grandeur en lui.
Donc c'est par intérêt.
Alors vous avez raison, c'est ce qu'il a dit. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Tu as raison que là, à ce stade-là, il y a l'intérêt. Après, on va expliquer comment en vérité, même cet intérêt, il n'y a pas. Mais déjà, il veut t'expliquer qu'il veut t'enlever l'erreur, ne pas faire l'erreur de croire que c'est Dieu qui me doit quelque chose. Tu dis, j'ai fait une mitzvah, bon, ça va, attends, je fais une avéra, mais j'ai fait des mitzvot. Non, tu n'as rien du tout. Sois content déjà quand t'as donné la possibilité de faire une mitzvah. Donc déjà, on a changé l'approche. Ça, c'est la réflexion que doit avoir le Bédoni. Le Bédoni, c'est nous. C'est la réflexion que je dois avoir pour, quand le Yetzahara, parce que rappelez-vous, le deuxième principe, c'est comment casser mon Yetzahara quand il me donne des avérotes dans la tête. Déjà, je lui dis au Yetzahara, je lui dis, écoute, Dieu me doit rien, c'est moi qui lui dois. Il faut qu'on développe un peu plus longuement. Vegam, Nafsho, Verucho, Asher Bekirbo, Kar Yatalam, il dit en vérité. Et même pas besoin de faire appel à la logique. En vérité, au fond de moi, j'ai un moteur. Ce moteur, c'est la Neshama. Et ce moteur, il attend qu'une chose, c'est pouvoir décoller vers la Kadosh Baruch Hu. Donc, en vérité, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que on a une pensée tordue, etc., chaque fois on bride la Neshama, on la bride, on la bloque. Mais elle, en vérité, elle veut décoller. Dès qu'à un moment donné dans la vie, la personne, il comprend qu'en vérité, ben, il a rien du tout, qu'en vérité, il est au Kadosh Baruch Hu, automatiquement, il a enlevé la crasse qu'il avait sur sa Neshama, et sa Neshama toute seule, elle décolle.
Ouais, mais alors, si elle s'en D'accord? va, qu'est-ce que je vais devenir?
Non, pas mourir, vous inquiétez pas. D'accord? Ça veut dire toute seule, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire un effort pour que la Neshama s'exprime.
Non, parce que...
Est-ce que j'ai besoin de faire un effort, par exemple, le jour de Kippour pour que ma Neshama s'exprime? Ma Neshama, automatiquement, elle s'exprime. comme j'ai enlevé la crasse qu'il y avait sur ma neshama, et que j'arrive à Kippour, et que je sais dans ma tête que je dois rien à Dieu, et que c'est Dieu qui me, au contraire, c'est, enfin pardon, Dieu me doit rien, et c'est moi qui dois tout à Kadosh Baruch Hu, et ben quand j'ai enlevé la crasse qu'il y avait sur ma neshama, automatiquement après ma neshama, elle décolle toute seule. Elle décolle. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça. C'est ce qu'il te dit ici. Ça veut dire qu'il s'adresse au Benoni sous deuxième principe. Il lui dit, ne crois pas que tu as besoin de réinventer la roue. Tu as déjà une neshama qui veut décoller, qui est prête à décoller. Sauf que tu la brides, tu la bloques avec tes idées tordues que tu crois que Dieu il te doit quelque chose. Enlève ça de ta tête, d'accord? Comprends que c'est toi qui dois à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas voir comment ta neshama d'elle-même, elle va communiquer avec Kadosh Baruch Hu. Après, c'est beaucoup plus facile.
Vous ressentez ça, vous? Vous ressentez?
De temps en temps, oui, sûr, oui. Oui. Essayez, vous allez voir, ça marche. Si c'est écrit, c'est que ça marche. Je peux vous dire, oui, bien sûr, ça marche. De sentir comment c'est pas Dieu qui me doit, c'est moi qui lui dois, bien sûr, oui. Il n'y a rien compliqué à ça.
Comment vous ressentez votre neshama? Qu'est-ce qui se passe?
Vous sentez à des moments quand vous avez de l'énergie, quand vous avez la passion, quand ça décolle. Vous sentez quand vous êtes pris, quand vous étudiez quelque chose, vous sentez que ça décolle. Des fois, vous sentez c'est plat, des fois, vous sentez que ça décolle. Pourquoi ça décolle? Parce que dès le départ, tu es venu devant le texte avec une humilité. C'est pas le texte qui me donne quelque chose, c'est moi qui donne quelque chose au texte. Et je rends pas service au texte quand j'essaye de le comprendre. C'est lui qui me rend service d'avoir été écrit pour me rendre service que je peux l'étudier maintenant. C'est une autre approche complètement différente.
Hein? C'est un mode d'emploi pour moi.
Mais c'est complètement différent parce que on vit dans un monde où on est égoïste. C'est-à-dire quand j'ouvre un livre, tu vois, je sens que je rends service à l'auteur du livre de comprendre ce qu'il a écrit. C'est le contraire. C'est lui qui m'a rendu service à écrire ce livre pour que moi, un jour, je pourrais essayer de me casser la tête à comprendre ce qu'il a dit. C'est le contraire. Donc automatiquement, quand je comprends pas, je dis pas ouais, c'est la zut. Non, je dis c'est moi qui ai une zut, c'est moi qui n'ai pas compris. Donc moi, vous me cassez la tête. L'approche elle change complètement, mais complètement. Quand, alors pareil, on a appliqué tout à l'heure par rapport à la relation qu'il y a entre un homme et une femme, entre etc. Pareil, quand il y a un problème, je dis pas ouais, c'est de la zut. Non, c'est moi qui ai de la zut. C'est moi qui ai pas réussi à communiquer, c'est moi qui dois faire un effort. Parce que je comprends que c'est pas à moi qu'on doit, c'est moi qui dois. Donc tout change. Il va continuer encore, parce que c'est une idée très puissante, ça.
Mais surtout, tu dois penser comme ça?
Surtout. Surtout d'être comme ça. Je dois penser qu'on ne me doit rien du tout. C'est moi qui dois tout à tout le monde. Même si dans l'absolu, on te doit des choses, moi, dans ma tête, je dois me dire qu'on ne me doit rien du tout. C'est moi qui dois tout à tout le monde. C'est comme ça qu'on doit penser.
Alors, puisqu'on est, s'annule complètement.
Puisqu'on est dans les shivas du Rav Azimov, vous savez, Rav Azimov, Zichrono Livracha, quand on allait le voir, il se mettait à votre niveau, mais c'est un truc de fou. Ça veut dire, presque, il te faisait sentir que c'est toi le Rav et c'est lui l'élève. Je peux pas expliquer. Il a trois fois ton âge, il a une expérience de. D'accord? Il se met à ton niveau. Ton niveau. Presque, il te fait sentir qu'il est content que tu es venu lui parler. Mais j'arrive même pas à expliquer comment c'est possible. Je vous promets, je l'ai vécu ça plusieurs fois. Hein, j'en parlais cette semaine avec mes amis. On est parti à son domicile pour aller consoler les enfants. J'en parlais plusieurs fois avec mes amis et tous les amis disaient la même chose. Ils disaient cette notion de proximité qui descend à ton niveau. Et qu'il ne donne pas le sentiment que voilà, qu'il est là et qu'il te rend service de t'avoir accordé un quart d'heure. Presque, il donne le sentiment que c'est toi qui lui as rendu service d'être venu. C'est ma mâche qu'on leur a expliqué ici. Ça veut dire vraiment, alors que dans l'absolu, c'est le contraire. C'est, je veux dire, bon, parce que dans la tête d'un juif, ça doit être comme ça.
Ah, c'est comme un combat. D'accord, si les deux personnes, quand ils se rencontrent, ils doivent se mettre...
Chacun dans sa tête, il doit penser qu'est-ce que moi je dois à l'autre, qu'est-ce que moi je peux donner à l'autre, pas qu'est-ce que l'autre doit me donner. Mais je suis d'accord à 100% qu'on ne vit pas dans un monde comme ça aujourd'hui. Ça, je l'admets à 100%. Par exemple, aujourd'hui, regardez, il suffit de voir toutes les publicités, ce truc comme ça. C'est qu'est-ce que la femme va donner à l'homme. Alors que dans la Torah, hein, quand je me marie avec une femme, c'est pas qu'est-ce que la femme va donner à l'homme. Il n'y a pas d'engagement de ce que la femme doit donner à l'homme. Dans la Ketouba, ce n'est pas écrit ce que la femme doit donner à l'homme. C'est ce que l'homme doit donner à la femme. Mais aujourd'hui, les gens, quand ils se marient, c'est qu'est-ce que la femme va me donner. Est-ce qu'elle va me faire des repas? Est-ce qu'elle va me donner ci? Est-ce qu'elle va me donner ça? Dans la Ketouba, c'est
concerné.
Quoi?
Il y a toujours eu la dot.
Mais d'accord, j'ai compris. Mais ça veut dire que la Ketouba, la base du mariage, d'accord? Je parle en tant qu'homme, en tout cas, la base du mariage, c'est pas qu'est-ce que elle devra me donner. C'est qu'est-ce que moi je vais devoir lui donner. Quelles sont mes obligations? Et ça, c'est la manière de voir les choses. Ça veut dire que dès le départ, on comprend que c'est complètement contraire de ce qu'on pense aujourd'hui, mais pile le contraire. On peut pas plus que ça. Ça tourne pas autour de moi, ça tourne autour de l'autre. C'est pas égocentrique. D'accord? C'est autour de l'autre. Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre attend? C'est difficile, j'admets que c'est difficile, c'est pas facile. Mais quand on arrive à faire de temps en temps comme ça, ça nous recadre et automatiquement après on arrive à avoir les bonnes relations avec la personne, donc même avec Akadosh Baruch Hu. Quand on est égocentrique, je me dis pourquoi Dieu me donne pas et j'ai déjà fait beaucoup. Quand t'es pas égocentrique, quand tu arrives à faire tourner les choses autour d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ben automatiquement, quand t'as raté, t'es pas content parce que tu dis je lui dois tout et je l'ai pas donné. Donc ça change tout.
Mais enfin, c'est comme... Pardon. Non, mais c'est comme quelqu'un à l'école qui travaille bien, il travaille très très bien, très bien, et puis il ne comprend pas pourquoi il n'a pas tout le temps des bonnes notes. Il a... Alors lui aussi, il est découragé. Donc c'est comme celui qui fait tout le temps des mitzvot, et puis il ne voit rien venir, il est découragé.
Mais on ne lui doit rien. C'est un bonheur, c'est une chance qu'on m'a donné la possibilité de participer dans l'écosystème de Dieu, de faire des mitzvot.
On ne le fait pas pour avoir une récompense.
Dieu ne me doit rien, c'est moi qui lui dois quelque chose. C'est moi qui est content de participer à son système. Il ne me doit rien. Et qui je suis moi pour comprendre qu'est-ce que c'est un salaire, qu'est-ce que c'est pas un salaire, et quand il rembourse et quand il rembourse pas, et qu'est-ce que... Je suis rien du tout, moi. Je suis une zut, je suis rien du tout, moi, je vois rien.
Une zut.
D'accord ? Oui, une zut. Ah, c'est le mot, c'est vrai, c'est-à-dire, je suis rien, je suis un microbe, je suis rien.
Par rapport à Kadosh Baruch Hu, oui.
Non, non, non.
Mais par rapport aux êtres humains, il faut quand même savoir mettre à la limite.
Non, attendez, j'ai pas dit que. Attendez, je comprécise. D'accord ? D'accord, je comprécise. Je ne suis pas en train de dire que je dois m'écraser.
Devant Kadosh Baruch Hu, peut-être, mais pas devant les humains. Même devant ta femme.
C'est pas t'écraser, ça veut dire te sentir moins que rien. C'est de comprendre, d'accord, que c'est, de comprendre que c'est pas à moi qu'on doit quelque chose, c'est moi qui dois aux autres. C'est une base dans la vie, ça. De comprendre que je suis, que je, c'est moi qui dois donner à l'autre et pas lui qui doit me donner à moi. Ça tourne autour de l'autre.
Oui, mais enfin, il faut qu'il y ait quand même un retour.
D'accord.
S'il n'y a pas de retour, t'es découragé, t'as plus envie.
Vous avez raison.
À quoi ça sert de travailler comme ça? J'ai toujours des mauvaises notes. Ça sert à rien.
Je suis d'accord. Mais là, c'est déjà une autre approche. Si je pars de l'approche que moi, dès le départ, j'ai une relation que je... Dieu me doit rien, c'est moi qui lui dois. Mais comment, de temps en temps, j'aimerais un retour? C'est une chose. C'est-à-dire, j'aimerais un retour. S'il me le donne, il le donne. Il ne le donne pas, il ne le donne pas. Mais si dès le départ, on voit ça dans la notion de récompense, salaire, il me doit, etc. Dès que je peux payer, attends, je dis, oh, pourquoi je peux payer? Ça change complètement. C'est une autre approche. On change complètement d'approche, là. Mais c'est dans la vie, c'est un système dans la vie, ça. Et si le Mourazakan le précise ici, il va le développer longuement, parce que c'est le deuxième challenge du Benoni. Le premier challenge, c'est qu'il sent qu'il n'y a pas de résultat, on lui dit, c'est pas grave, ce qui compte, c'est de se battre. Et le deuxième challenge, on lui dit, écoute, il faut arrêter de croire que tout est dû. Il n'y a rien qui t'est dû. On ne te doit rien du tout. Et quand tu comprends les choses comme ça, automatiquement, tu vois les choses différemment. On va essayer d'expliquer un peu plus longuement, oui.
Ça marche aussi avec les êtres humains,
ça doit aller... Ça marche partout dans la vie.
Bah non.
Bien sûr.
Je dois des choses à Hachem, mais je dois rien aux autres.
Mais tu t'es marié avec quelqu'un, d'accord? Tu t'es marié avec une femme. Oui, mais Hachem,
tu t'es marié. Oui, mais avec une femme, mais moi je parle avec un ami.
Alors je vais t'expliquer. Tu es encore jeune homme, Baruch Hachem.
Un ami, d'accord, une personne dans la rue.
Sache qu'un jeune homme, c'est très égoïste. Okay. Tu saches. D'accord, un jeune homme, c'est très égoïste. Un jeune homme, même s'il a une copine, je ne sais pas ce que tu as, ce que tu n'as pas, ou une fiancée, Baruch Hachem, d'accord? Le jour où il accroche avec elle, chacun rentre chez lui, c'est fini. Rentre chez toi, tu rentres chez ta mère, je rentre chez ma mère, c'est fini. C'est égoïste. Il n'y a pas la notion de on doit quelque chose l'un à l'autre. Quand on se marie, on doit quelque chose l'un à l'autre. C'est pas seulement que chacun va avoir quelque chose, on doit aussi quelque chose. Et si tu veux avoir un retour, il faut donner. Il faut d'abord donner pour avoir un retour.
Ça, je comprends avec sa femme. Moi, je parle avec son prochain.
Tout le monde. Avec tout le monde, c'est comme ça.
Alors, explique-moi pour le prochain.
Personne ne doit rien.
Non.
C'est moi qui dois.
On doit quelqu'un. Mais moi, je dois rien du tout à la personne. C'est une personne dans la rue que je la croise, je lui dois.
Ah, j'ai compris.
Et un ami aussi. Qu'est-ce que je lui dois?
Par exemple, quand je vais aller voir un frère juif pour l'encourager à mettre les tefilines, d'accord? C'est pas un service que je lui rends. Non, je lui dois ça, parce que c'est un frère et je dois m'occuper de lui, c'est tout.
Okay.
Comment ça veut dire que. C'est pas, il a la notion que. Ouais, j'ai pensé à lui, je suis parti le voir, il m'a jeté, pourquoi t'as vu, comment il t'envoie, pour qui il se prend? Non! Il me doit rien. C'est moi qui lui dois. Je lui rends un service parce que c'est mon frère. D'accord. Alors, si ça a marché une fois, ça a marché. Ça va marcher.
C'est que les juifs alors.
Quoi?
C'est que avec les juifs.
C'est en général dans le monde. C'est un être humain comme moi. Ça veut dire que je ne vois pas qu'est-ce qu'on me doit à moi. Parce que si tu vois les choses comme ça, voilà, je suis parti, je voulais rendre service à quelqu'un, il m'a jeté, et je suis dégoûté. Voilà, il m'a jeté, t'as vu ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un effort et lui, il m'a jeté. Mais tu t'imagines? Mais c'est grave. Parce que dès le départ, l'approche était mauvaise.
Mais est-ce que tu retournes?
Quoi?
Est-ce que tu retournes le voir?
Après, c'est une... D'accord, après, je dis pas non plus qu'il faut, on a des sentiments, il faut gérer ces sentiments. Il y a des limites. Mais il faut, dès le départ, que mon approche soit comme ça. Que mon approche ne doit pas démarrer que je rends service. D'accord? Mon approche, c'est que c'est normal. Alors après, bien sûr, tu as raison que si je sens après que ça me tape sur mon système, il ne faut pas non plus abuser.
Des fois, la limite, elle est quand même assez haute.
Oui.
Par exemple, t'as le limite que j'y ramène, puis on peut divorcer sa femme, ça la fait griller le plat.
Bon, faut voir.
Ah bon?
Faut voir les commentaires, c'est quoi griller le plat?
Noir sur blanc.
Oui, bien sûr.
Ah bon?
Mais j'ai vu une fois une explication.
Griller le plat volontairement, etc. Bon, non. C'est vrai, tu vois.
Ah, volontairement.
Au fait, le plat grillé, ça veut dire en fait le plat il grille jamais entièrement. Ce qui grille, c'est au fond de la casserole.
oui. qui elle lui a amené le plat gris, c'est-à-dire qu'elle, elle s'est pris le bon part et elle a laissé pour son mari.
Et alors, pour son divorce et alors, pour son divorce.
C'est une limite, Mandy.
Pour son divorce.
Si je lui dis plein de choses.
Il y en a qui vont trafiquer la
question. Regardez, puisque je voulais pas la vérité, je voulais pas trop parler du mariage, mais puisqu'on a parlé du mariage, dans le mariage, le plus important, à mon avis, d'accord, et à mon avis, c'est ce qu'on comprend ici aussi, à mon avis, dans le mariage, l'aspect le plus important, c'est le kavod. C'est quoi le kavod? Le kavod, c'est le respect, et donc le respect, c'est la distance. Tu dis, mais c'est bizarre, on parle d'amour. Tu peux aimer quelqu'un, mais tu as le kavod. Ça veut dire que tu as la distance. Le respect, ça veut dire que c'est pas ton copain. Il y a la distance. On respecte. Bon, t'es pas d'accord. Il y a un kavod. C'est aussi par rapport à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Si on peut comparer ça. C'est que il y a un kavod à Kadosh Baruch Hu. Tu crains à Kadosh Baruch Hu. Après, une fois que t'as le kavod, là, tu peux aller après tu peux commencer à l'aimer.
C'est pas la même chose.
D'accord? C'est la même chose. Le Zohar compare à 100% la relation qu'il y a entre un juif et un Kadosh Baruch Hu à la relation qu'il y a entre un homme et une femme.
La relation entre un juif et un Kadosh Baruch Hu, pour vraiment se situer, c'est comprendre que nous savons que rien, c'est déjà beaucoup dans l'existence de nous par rapport à Kadosh Baruch Hu. Autrement dit, quand on a compris ça, on sait qu'on n'a rien, on n'a qu'un chemin à faire, la ligne et les droites.
Oui, mais concrètement, ça c'est en théorie, mais en pratique, c'est difficile.
Quand on a réellement cette conscience-là, la pratique, elle vient, peut-être qu'elle vient une minute.
Oui.
Mais elle vient une minute.
C'est pas, là, j'entends ce que tu veux dire, mais là, c'est pas seulement la pratique qui veut parler. Il veut parler d'une personne qui dit je sens pas que j'ai de l'amour envers un Kadosh Baruch Hu.
Non.
Alors qu'est-ce qu'il te répond? Il te dit, si tu sens pas que t'as pas d'amour, c'est parce que tu sens qu'il te doit quelque chose. Déjà, comprendre qu'il est beaucoup plus grand que toi. Et quand tu comprends qu'il est beaucoup plus grand que toi et que c'est lui qui t'a rendu un service de pouvoir faire une mitzvah, automatiquement, tu commences déjà à avoir un peu plus de distance avec le Kadosh Baruch Hu et tu commences un peu plus déjà à apprécier le fait qu'il t'a donné la possibilité de communiquer avec lui.
Ça n'a rien à voir avec. D'accord. Excuse-moi, mais ça a à voir avec plein de choses que tu racontes, mais pas avec l'amour.
Tout.
Ça peut être la crainte aussi. Hein.
D'accord. Le vrai amour, d'accord, ça peut être aussi, d'accord, comprendre que la personne est loin, et comme tu sais qu'il est loin, c'est pour ça que tu apprends ses qualités. J'explique. Je voudrais m'arrêter sur le point que tu dis, juste deux secondes. Ouais. On dit par exemple, pourquoi on aime quelqu'un? Il y a plusieurs raisons pourquoi on aime quelqu'un. On peut aimer quelqu'un par exemple parce qu'on est attiré par lui. D'accord? On est attiré physiquement par lui. Ça c'est éphémère. Le plus grand amour, c'est expliqué en Chassidut, c'est quand tu vas aimer les qualités d'une personne. Par exemple, on dit qu'Avram Avinu, puisqu'on parle de Avinu dans le parasha actuel, Avram Avinu, il a aimé Akadosh Baruch Hu parce qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu. Il a découvert l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. Plus il réfléchit, il a découvert l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu réfléchis à l'immensité de la chose, et plus tu te mets à aimer la chose. Ça veut dire que l'amour, plus tu réfléchis aux qualités d'une personne, et plus tu vas commencer à l'aimer. Ça, c'est un amour qui est profond, ça. Ça, c'est pas un amour qui est éphémère, qui est un amour physique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même l'amour est lié à la réflexion, et est lié au fait que j'imagine que j'ai affaire à quelque chose de très très grand. Et plus je réalise ça, c'est et plus je comprends.
C'est de la curiosité sans fin.
Alors. Évidemment, oui.
Mais c'est pas tellement de l'amour.
De la main. Mais la curiosité amène l'amour.
Quand tu disais que c'était comparable à l'amour entre un homme et une femme,
oui.
Je pense que c'est plus triangulaire que ça peut être comme ça. C'est toujours une relation qu'on doit, chacun doit avoir avec Dieu, d'attachement, pour se rapprocher de sa femme. Parce que si c'est que dans un sens, après qui se met à la position, on va dire, de la relation de Dieu, qui se met en position de l'homme ou quelque chose.
Triangulaire, tu veux dire quoi? Tu veux dire que l'homme et la femme doivent avancer?
Je pense que l'homme et la femme ne peuvent finalement se connaître ou s'apprécier qu'à travers aussi.
À travers un Kadosh Baruch Hu, c'est sûr, ça, c'est le troisième associé, c'est sûr, ça. Là, tu as raison, parce que c'est Dieu qui nous permet d'avoir des repères, et par rapport aux repères, on peut s'approcher. Mais là, ce qu'il veut t'expliquer ici, c'est la notion que. C'est Dieu qui me rend un service pour m'approcher à lui. Donc c'est une autre approche. On va développer encore quelques points, mais toujours dans la même direction. C'est-à-dire changer notre approche, changer notre manière de voir les choses. Je ne dis pas qu'après ce cours, vous allez changer, et que je ne dis pas que j'ai changé après ce cours. Mais déjà, si déjà, de temps en temps, on arrive à réfléchir comme ça, l'approche, elle change. Et déjà, le fait même de savoir que c'est comme ça, c'est déjà quelque chose de grand. Alors, dans les mots. Vegam. Nafsho verucho asher bekirbo kach ya'ata lahem liot kalot elav bachashka vachafetza latzis benachtekan oguf ledov kavo. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'en vérité, au fond de nous, de chacun de nous, il y a un moteur. Et ce moteur, alors, c'est la neshama, et ce moteur, il veut décoller. Il veut constamment aller vers un Kadosh Baruch Hu. Il y a une flamme qui bouge, et qu'il y a que le combustible qui l'arrête, mais dès que le combustible s'arrête, elle repart. Parce que la neshama, elle veut constamment décoller. D'accord? La neshama a un étui. C'est quoi l'étui de la neshama? Le nartek. Nartek, c'est quoi nartek? D'accord? Nartek en hébreu, c'est un étui. Et c'est écrit comme ça, vous allez voir ce qu'il dit ici. D'accord ? En fait, c'est la Gemara qui dit ça. Il dit « Rak shebe al-korhan chayot ena betochaguf. » La neshama vit contre son gré dans le corps. « Utsrurot bo » et elle est enchaînée en lui « Ki almenut chayut. » D'accord ? Elle est enchaînée en lui « Ki almenut chayut » ça veut dire quoi ? Ça veut dire comme une veuve vivante. Est-ce que c'est une veuve vivante ? Enfin, une veuve vivante. Une veuve, c'est quoi une veuve ? C'est une dame qui a perdu son mari, mais elle peut se remarier. S'il y a une dame, d'accord, que son mari, on l'a perdu de vue, il n'est plus là. Dieu préserve, elle est à Gouna. Donc, concrètement, elle est veuve, parce qu'elle n'a pas de mari. Mais est-ce qu'elle peut se remarier ?
Non.
Non plus, parce que son mari est encore en vie. Enfin, en tout cas, on n'a pas de preuve qu'il est mort.
Ah oui, d'accord.
Donc, du coup, comment on appelle ça dans la Gemara ? La Gemara, elle appelle ça une femme veuve, que son mari, la veuve d'un vivant. D'accord ? Eh ben, c'est, alors, quel rapport ? Le rapport, c'est que c'est la même chose à la Neshama. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cette Aguna ? Aguna, le terme, vous savez d'où vient le terme Aguna ? Aguna, ça veut dire qu'elle est enchaînée. Elle est bloquée. D'accord ? C'est comme Aguna, vous savez, c'est comme quand on prend le rogaine dans le bateau, quand on veut bloquer le bateau dans la mer. Comment on appelle ça ?
L'ancre. Oui.
D'accord ? Ancrée. Aguna, ça veut dire qu'elle est ancrée. Elle est bloquée.
Pour cette veuve-là, il y a un délai.
Non.
Aguna, il n'y a pas de délai.
Non. À vie. Ah bon, à vie.
Ça veut dire qu'elle a 25 ans.
Eh bien, elle reste bloquée à vie.
Il a
disparu. Elle reste bloquée.
Elle vit jusqu'à 120 ans.
Vous savez qu'en Israël, c'est un délit, ça. De se sauver sans donner le guet à sa femme, en tout cas sans donner une trace, c'est un délit. Et c'est passé de prison. Heureusement. Ah, bien sûr. Bah oui, la femme, elle est bloquée. La femme, elle est bloquée.
Ah, même si le mec s'est bloqué, il s'est sauvé exprès, on sait qu'il s'est sauvé.
C'est un délit.
Ah d'accord.
C'est passé de prison.
La femme est bloquée quand même. Elle est quand même bloquée. Même si on sait qu'il s'est sauvé. Mais c'est...
Mais où il est ? Elle est pas divorcée. Qu'est-ce qu'on fasse ?
Il y a pas un juge.
Ah oui ?
Et pas, oui, c'est pas un juge qui peut trancher.
Mais ça peut être, c'est ça peut être 50 ans. Ça peut être 100 ans. On peut rien faire.
Il n'y a pas un juge.
Seulement personne.
Non.
Tant qu'il n'y a pas d'éléments suffisamment forts pour estimer
que. Mais si on sait que le mec s'est sauvé, c'est un.
Il est pas en France. Il est pas en Israël.
Ça change pas. Il est tant qu'il est vivant dans le monde.
Si après il y a beaucoup de choses qui. Pourrait supposer qu'il est mort après.
Après, c'est le rôle des rabbinim de décider.
Voilà. Là, il s'est sauvé. Il a refait sa vie dans un autre pays au Mexique.
Qu'est-ce que ça change ? Cette femme est toujours liée à cet homme ?
Il faut le guet.
Il faut le guet ? Tant qu'il n'y a pas le guet, c'est pas bon. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est quoi Aguna ?
Tu vois, tu peux Aguna, pas partir au Mexique. Hein.
Hein
non,
mais quelque part, on peut dire que c'est entre guillemets un peu injuste. Ça. Hein
alors, c'est injuste. Bien sûr, c'est injuste. Alors, maintenant, imaginez, comme Serge, il fait remarquer, il dit mais c'est injuste. Alors, t'as une femme qui est bloquée, c'est la veuve d'un vivant. Ça veut dire qu'elle est bloquée à vitam aeternam, j'imagine.
Alors que l'homme, il peut se remarier.
Alors que l'homme peut se remarier.
Ah bon, sans le guet, il peut se remarier.
Ah oui. Ça veut dire quoi ?
Mais alors, comment ?
Attends, je vais arriver au bout du raisonnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quoi une aguna ? Une aguna, c'est une femme qui est bloquée. C'est une femme qui est verrouillée, qu'elle veut avancer, elle veut se remarier, elle veut refaire sa vie. D'accord ? Écoutez bien, il faut voir la suite. Elle veut se remarier, elle veut refaire sa vie, mais elle peut pas refaire sa vie. Eh bien, imaginez que la Neshama se sent exactement la même chose. La Neshama qui est au fond de nous, elle a connu Dieu. Elle était, avant de descendre ici-bas sur Terre, elle était en haut. Et en haut, ça a marché. D'accord ? On l'a mis dans un corps, et on l'a bloqué, on l'a bridé, on dit vas-y, tu bouges plus maintenant. Maintenant, elle sait qu'il y a une vie en haut. Elle sait que c'est pas, elle sait qu'elle est bloquée, qu'elle est bridée, qu'elle est verrouillée, qu'il y a un corps qui n'a pas de la brider, de la faire tomber, etc. Mais elle peut rien faire. Quand la Neshama, elle dit à Kadosh Baruch Hu, elle dit je veux revenir. D'accord ? Quand tous les soirs, elle monte chez Akadosh Baruch Hu et elle pleure, la Neshama, elle crie chaque nuit à Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, j'en ai marre de cette vie dans le corps. Et ben, dès qu'arrive le moment le matin où je me lève, ben, Dieu, il dit, hop, tu repars en bas, tu descends en bas. Tant que je t'ai pas décidé de te ramener ad vitam aeternam, ben, tu restes en haut. Tu restes en bas. Ça veut dire que pour la Neshama, c'est une souffrance. Quand je réfléchis à ça, quand je me dis, tu t'imagines, qu'en vérité, j'ai une Neshama en moi qui attend une seule chose, c'est de décoller. Et moi, je suis là en train de dire, qu'est-ce qu'on me doit, qu'est-ce qu'on ne doit pas. Et ben, tu dis, en vérité, tu sais quoi? T'as un moteur en toi, il est prêt à décoller. C'est toi qui l'as bridé. Donc déjà, quand tu réfléchis à ça, que tout est prêt pour décoller, eh ben, ça facilite beaucoup, 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 beaucoup la chose pour laisser la Neshama s'exprimer automatiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de faire un effort. Il suffit d'enlever la crasse de ton corps, d'enlever l'orgueil, et automatiquement, il faut laisser la Neshama s'exprimer, la Neshama parle d'elle-même. Pas besoin de faire un effort. Ça, c'est le truc de ce que tu dis. « Veleit marshava dilhon tfisa beklal ki im kaasher tfisa ou mitlabesha betora ou mitzotea » Comme ce que tu as fait remarquer, Yves, d'accord ? Tu as dit qu'en vérité c'est triangulaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comment on peut saisir Akadosh Baruch Hu ? On peut saisir Akadosh Baruch Hu seulement quand on va saisir la Torah et les mitzvot. D'accord ? Kemashal amehabek et amelech anal. Comme l'exemple qu'on a donné, d'accord ? On avait donné dans le chapitre 5 de celui qui enlace la Torah. Je vais vous donner un exemple qui dit là-bas. Imaginez que vous avez un roi. et que vous avez envie de l'enlacer. Parce que le roi, vous l'aimez, c'est votre roi. Nous, on ne sait pas ce que c'est un roi. Il y a des gens peut-être ici qui, les Marocains, vous allez dire ce que c'est un roi. Bon, c'est bien, petit encore pour les Marocains. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est un roi. Mais bon, on dit qu'en tout cas, quand on parle dans la Torah d'un roi, on dit que le roi, bien sûr qu'il y a la crainte du roi, mais le peuple aime le roi. Quand c'est un bon roi, le peuple aime le roi. On aime le roi, d'accord. Donc, un simple citoyen, même s'il n'a pas le droit, il aimerait une fois pouvoir enlacer le roi pour lui dire qu'il aime. L'enlacer pour lui dire qu'il aime. Maintenant, il pose la question. Imagine-toi maintenant ce roi-là. Bon, il vient avec un vêtement. D'accord. Bon, t'as enlacé le roi. Maintenant, imagine-toi le roi. Il a 100 vêtements sur lui. Il a une vieille... 100 vêtements. Et toi, tu l'enlaces. Est-ce que pour toi, c'est une différence si tu l'enlaces s'il a un vêtement ou 100 vêtements?
Non.
Ça change rien. J'ai enlacé le roi. Ben, il dit c'est la même chose. Tu dois savoir que quand tu fais une mitzvah, il y a le cœur de la mitzvah. Le cœur de la mitzvah, c'est le fait, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, cette mitzvah, après, on l'a mis des vêtements. C'est-à-dire, on l'a habillé. D'accord? On a dit, bon, tu vas mettre les tefillines avec une lanière de cuir, avec ci, avec ça. On a mis des vêtements. On l'a habillé. D'accord? On a habillé la mitzvah, on l'a habillé. Je sais qu'à la fin, je me retrouve avec 50 vêtements. Et je me dis, mais attends, mais moi, je veux le premier vêtement, je veux pas le 50e. On dit, mais qu'est-ce que ça change? 50 vêtements ou 100 vêtements. De toutes les façons, t'as enlacé le roi. Est-ce que parce que tu n'as pas senti que t'as enlacé le roi, c'est pour ça que tu l'as pas senti? Si le roi avait un vêtement, quand tu l'enlaces, tu sens que tu l'as attrapé. Quand il a 100 vêtements, est-ce que tu sens que tu l'as attrapé?
Non.
Non. Mais est-ce que pourtant ça veut dire que tu l'as pas attrapé? Tu l'as attrapé? Non, seulement quoi? Tu as moins senti. Bon. Mais tu l'as attrapé, tu l'as enlacé. Et ben c'est la même chose. Ce qui veut te dire ici, c'est que ça c'est la chose auquel on doit réfléchir. Donc je reprends le raisonnement parce qu'il y a un raisonnement très logique ici. Premièrement, je dois me dire que c'est pas Dieu qui me doit quelque chose, c'est moi qui dois Dieu. Number one. Numéro deux, en plus au fond de moi, j'ai une neshama qui est déjà prête à décoller. Donc il suffit juste de la laisser parler là déjà, laisser s'exprimer. Numéro deux. Numéro trois. D'accord, ce qu'il te dit ici, sache que chaque fois que tu fais une mitzvah, Dieu te donne le privilège, d'accord, et la possibilité de l'enlacer. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais attends, tu t'imagines? Moi, je suis là pour ma petite avéra, mon petit kick que je vais faire, je zappe tout ça pour ma petite avéra. Tu t'imagines, tu vas enlacer à quatre fois en roue. Dieu te donne la possibilité de l'enlacer, de le prendre dans les bras, et toi, tu es là, tu le jettes. T'es fou, quoi, t'es malade, quoi. Il te dit, il l'azote, c'est pour ça. Quand tu réfléchis à tout ça, Yata la haine les chabko becholev nefesh umeot. Quand tu réfléchis à tout ce qu'on vient de dire ici, eh bien, tu as envie de bien faire. Alors encore une fois, je précise ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne dis pas qu'après ce cours, on va changer notre comportement. Mais déjà, quand tu réfléchis à tout ça, tu as envie de bien faire. Tu dis, mais c'est vrai. Tu dis, Dieu me doit rien, c'est moi qui lui dois tout. Ma neshama, elle veut décoller. Et en vérité, quand je fais une mitzvah, j'ai une occasion extraordinaire, un privilège de m'attacher à Dieu. Je dis, mais la vérité, j'aimerais bien me comporter. Vous savez quoi? Le fait même d'aimer bien se comporter, c'est déjà extraordinaire. Il y a un proverbe qui dit, en hébreu, qui dit « Yediat amahala chatsi refoua ». Savoir qu'on est malade, c'est déjà la moitié de la guérison. C'est-à-dire savoir comment j'aurais dû me comporter, c'est déjà la moitié de la guérison. Quand déjà, dès le départ, d'emblée, je me dis que je suis malade, d'accord, que c'est pas Dieu qui me doit, c'est moi qui lui dois, et que voilà comment ça aurait dû être, que je devrais avoir envie dans la sacadoche en roue, la prochaine fois que le Yitzhara vient me parler, même si des fois je vais l'écouter, mais je sais que je suis malade de l'écouter. C'est déjà pas mal, ça. Savoir que je suis malade, c'est déjà la moitié de la guérison. Parce que quand on sait pas qu'on est malade, eh ben, le bonhomme, il va jamais guérir. Quand tu sais que t'es malade, alors après, bon, quand le docteur, il va te donner le traitement, est-ce que tu vas écouter, tu vas pas écouter? Bon, c'est autre chose. Des fois, c'est difficile. Mais accepter que tu es malade, c'est déjà très difficile. Qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi vous croyez que dans les paquets de cigarettes, ils vous mettent en gros, là, ils vous mettent des images des poumons tordus, je sais pas quoi, avec fumé, des trucs comme ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vous mettent ça, un paquet de cigarettes? Pourquoi ils font ça? Pour sensibiliser la personne. Parce qu'on sait très bien que tu vas venir, tu lui dis, arrête de fumer. Ouais, il y a des gens qui sont marrants. Mais ça ne lui parle pas. Mais quand il va entendre, quand il va voir qu'il y a des études qui ont été faites, quand il va apprendre qu'il y a un copain du préserve qui est niftar parce qu'il y a cause qui fumait trop, bah, tout de suite, il y a des bonhommes, ils ont pris ça, il va s'arrêter. Pourquoi il va s'arrêter? Parce que ça lui parle. Parce que quand tu vois un truc comme ça, tu comprends que c'est grave. D'accord? C'est concret, tu comprends que c'est grave. Et le fait même de savoir qu'il y a de comprendre et d'admettre qu'il y a un problème, c'est déjà la moitié de la solution. Donc ça, c'était le deuxième message qu'on dit au Benoni. Premier message, on lui a dit, ce qui compte, c'est de te battre. Le résultat, peu importe. Le résultat, on verra après. Deuxième message qu'on lui dit, comprends que tu dois tout à Kadosh Baruch Hu, il te doit rien. Et que le fait même que tu comprends qu'il y a un problème, c'est déjà la moitié de la solution. Da'inu, ça veut dire, comment une personne va enlacer à Kadosh Baruch Hu, kiyum atariag mitzvot, c'est en accomplissant les 613 mitzvot, bema'aseh ou bedibur, par l'action est par la parole, ou b'machashava est par la pensée, ia sagat ve'idiat haTorah kanitkar le'el, c'est quand on va réfléchir à la Torah. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit, Alors, là, il développe ça longuement dans des mots. Il dit, que chez ma amie, ben, inyenze. Lorsqu'une personne va réfléchir à ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Vas-y, David, tu veux nous répéter, qu'est-ce qu'on vient de dire? À quoi il va réfléchir? Ah, dis-moi en un mot ce que tu as retenu. À quoi je vais réfléchir?
Je réfléchis à
que, au fait que.
Que moi, je ne dois. Moi, on ne me doit rien.
Et c'est moi qui dois à Kadosh Baruch Hu. Et donc, que je réfléchis que quand je me laisse avoir pour une petite avéra à cause de ça, je mets, d'accord, d'enlacer à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est très grave. D'accord? À cause de ça. Alors, quand tu réfléchis à tout ça, très bien. Quand tu vas réfléchir, attention, il dit ici que chez Maramik Benyenze. Ne crois pas que c'est Stam, je vais rentrer, oh, j'ai réfléchi 5 minutes, c'est bon. Chez Maramik, c'est quoi Maramik? D'accord? On va prendre dans les mots, suivez dans les mots, comme ça vous pouvez réviser après. Mm-hmm. Page 217. Que chez Maramik Benyenze. Lorsque le Benoni va méditer à cela, d'accord? Il va méditer. Beta alumot tvinot tvunot libo umocho. Il va méditer à ça, d'accord? Dans tous les recoins de sa compréhension. C'est-à-dire qu'il va essayer de réfléchir profondément à ça. Mais sérieusement, pas à Stam comme ça. C'est-à-dire qu'il va réfléchir sérieusement, dans une pièce, seul, il va réfléchir, il va poser la question, qu'est-ce que tout ça représente pour moi? Quand il va réfléchir à tout, attention, ou pif velibo chavin, il faut que ton cœur et ta bouche soient au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils disent quelque chose, ils pensent autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans la bouche, ils parlent, ils font les divrei Torah, tout ce que tu veux, mais dans le cœur, il n'y en a rien à faire. Il te dit, exactement, hypocrite, il te dit, attention. On ne demande pas simplement de venir et de crier, on doit rien à Dieu, enfin, Dieu me doit rien, c'est moi qui lui dois tout. C'est pas seulement pive velibo, c'est ta bouche et ton cœur. Ça veut dire que ce que tu dois dire dans ta bouche doit refléter ce que tu penses, et que dans ton cœur, tu dois réellement penser, comprendre et admettre qu'on ne doit rien, d'accord, enfin, Dieu ne nous doit rien, c'est moi qui dois, je m'en fous. Chez mes kayem, Ken befiv kefi ashanigma vivunot libo umocho. Ça veut dire quoi quand on dit qu'une personne, sa bouche et son cœur sont au même niveau? Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Et que ce qu'il dit exprime en vérité, ce qu'il va dire exprime en vérité la pensée et la profondeur de sa pensée, c'est issu, d'accord, d'une mûre réflexion, ce qu'il a beaucoup réfléchi longuement. Là, tu peux dire que quand une personne y parle, tu sens que ça sort de lui. Et je vais vous dire, c'est très simple. Vous savez quoi? Quand une personne y parle, quand tu sens que c'est pas sincère ce qu'il dit, eh ben ça te convainc pas. C'est comme dans les affaires. Ben, tu dis bon, pourquoi? Parce que tu sens que sa bouche n'en fait pas ce qu'il a dans son cœur. Mais quand le bonhomme il te parle et tu sens que ça vient de ses tripes, ça vient de lui, il te convainc, il peut te vendre des pierres, il te convainc. Parce que tu sens que ça vient de lui, tu sens que ça vient du plus profond de lui. C'est ce qu'il dit au Benoni. Il te dit, d'abord numéro 1, on a dit, bon, l'essentiel c'est de travailler, c'est pas le résultat. Mais il te dit numéro 2, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu sentes que profondément, tu as compris que c'est toi qui dois à Kadosh Baruch Hu, c'est moi qui dois à Kadosh Baruch Hu. Il faut que ça soit dans ton cœur profondément, pas Stam tu le dis. Pas Stam tu dis Baruch Ata Hashem Elokeinu, tu es béni Hashem, on te doit tout Elokeinu, Kavatenu. Bon, tu peux faire un midah 15 fois. Tu peux la dire, mais ne pas la sentir. Il faut que tu sens que ça vienne de toi et que c'est issu de la réflexion de ton cœur et de ton cerveau. Et sois sincère. Et ça, c'est très dur. Ça, c'est très dur. Être capable de dire que tout ce qu'on fait, c'est sincère, c'est très dur. Parce que malheureusement, on tombe très souvent dans la routine. Ah, on fait les choses, ça continue, ça tourne. Après, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? On ne sait même plus. C'est très, très dur d'être capable de dire, je fais la chose et j'y crois à 100%. Et je vais vous dire, d'accord? Vous savez, c'est quoi le siman? Le signe? C'est très simple. Quand tu vois que tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, c'est quand toi, c'est pas bon. Si tu vois que tu n'arrives pas à convaincre quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai entendu cette semaine raconter l'histoire du Rav Azimov, puisqu'on parle du Rav Azimov. Une fois, ils étaient dans l'avion. C'était quand le rabbi n'avait pas beaucoup parlé de l'importance de convaincre les juifs à mettre les tefillin. Une fois, ils étaient dans l'avion. Et bon, dans le feu de l'action, ils allaient essayer de chercher tous les juifs dans l'avion. Est-ce que vous êtes juif, etc. pour le convaincre. Il y avait un, apparemment, c'était une tête dure, il ne voulait pas mettre les tefillin. D'accord. Donc, un des rabbins de l'avion l'avait proposé, il ne voulait pas mettre les tefillin. Bon, alors il a réussi à mettre plusieurs, mais lui, il n'a pas réussi. Il est parti voir Rav Azimov. Et il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, ouais, je tournais dans l'avion, etc. Il y en a un, celui qui est assis là-bas, il voulait pas mettre les tefillin. Rav Azimov dit, ah! Il s'est dit, ah, comme ça, le Ashkenaz. Il est parti le voir. Une minute plus tard, le gars avait les tefillin sur le bras.
Ah, comment il a fait?
Parce qu'il y croyait. Il avait ça dans ses tripes. Il avait ça en lui. Ça veut dire que quand il est parti le voir, il était convaincu qu'il faut mettre les tefillin. Que c'est pas possible que je lui mette pas les tefillin. Et le bonhomme, tellement il était devant quelqu'un convaincu qu'il pouvait même pas dire non, c'est impossible. Vous savez, pour ceux qui ont eu la chance d'assister au Fabringen du Rav Azimov, quand on a assisté au Fabringen du Rav Azimov,
il disait pas des grands chidushim, c'est pas des grandes nouveautés, des grandes choses, c'était pas des grands scoops qu'il disait. C'est le même, il disait, bien qu'on allait à des cours des fois dans lesquels il faisait des grands scoops, mais il disait que dans un Fabringen, le but d'un Fabringen, c'est quoi? C'est de dire des choses de la vie de tous les jours, mais tu sentais qu'il sortait de son cœur, ça, tu sentais que ce qu'il te demandait de faire, il le faisait lui-même, et qu'il le vivait lui-même. Donc c'est pour ça que quand tu entendais ça, et ben automatiquement ça avait un impact sur toi, parce que tu sentais que ce qu'il te disait, il le vivait. C'est ça qu'il dit ici. Vive Velibo Chavim. Sa bouche et son cœur sont au même niveau.
C'est du bon
encore. Ah oui.
Des fois, on se parle à soi-même.
Bien sûr.
Pour faire des choses, on ne les fait pas tout de suite. On
ça prend du temps, mais attention. Ne croyez pas. C'est-à-dire que ce qu'il exige aux autres, ce que j'exige aux autres, je dois me l'exiger à moi-même. Et c'est difficile. Mais c'est ce qu'il te dit ici. Le Béloni, on lui dit, sache qu'il faut qu'il soit honnête. Il faut que tu sois sincère. Il faut que tu te casses la tête. Il faut que dans ta tête, tu fasses un changement. D'accord? Tu changes de manière de voir les choses et que tu comprennes que c'est pas Dieu qui me doit quelque chose, c'est moi qui lui dois quelque chose. Il ne faut pas seulement le dire, il faut le penser, le vivre et le sentir. Daïnu, ça veut dire Liyod betorat Hashem chefso v'yegeba yom balay l'avefiv. Ça veut dire que, en vérité, le Benoni, quand il va réfléchir à tout ça, il va réfléchir avec son cerveau à tout ça. Alors automatiquement, il va vouloir. Ça va être quoi son aspiration? Son aspiration va être de pouvoir étudier la Torah toute la journée et d'avoir. Alors c'est ce qu'il dit ici. Il dit, regardez, il dit d'avoir la volonté d'étudier la Torah. Parce que vous savez, quand une personne est dans les affaires, est-ce qu'il peut étudier la Torah toute la journée? Non. S'il peut étudier la Torah, un cours de Torah par semaine ou par jour, c'est déjà beaucoup. C'est pas grave. On n'est pas en train de dire qu'il va étudier la Torah toute la journée. On est en train de dire qu'il baigne dans la Torah. C'est-à-dire que même si concrètement il va étudier la Torah un cours le matin, un cours le soir, et que bon, il ne peut pas étudier plus que ça, mais toute sa volonté, elle est dedans. Parce qu'il sait que quand il vient étudier un cours de Torah, c'est pas un service qu'il rend à Dieu. C'est pas, il dit, bon, lundi soir, on va rendre service à Dieu, on va venir étudier un cours de Torah. Non, c'est un service que je me rends à moi d'essayer de comprendre la sagesse divine. Donc même si je ne peux pas arriver tous les soirs en cours de Torah, même si je ne peux pas encore étudier la Torah toute la journée, mais je pense à ça parce que je sais que c'est moi qui essaye de comprendre ce que Dieu dit. C'est lui qui me rend un service d'avoir compilé par écrit et qu'en vérité il me doit rien et que je suis une zut, d'accord? Je sais pas, David, il aurait préféré dire un autre mot apparemment. Non. Alors, moi je suis une zut, d'accord? D'accord? Mais je vois rien du tout, moi. Et c'est une chance que j'ai que Dieu a compilé par écrit des choses que je peux, d'accord, qu'un être humain comme moi, il peut essayer de comprendre. C'est de la chance que j'ai, parce que normalement, hein, la sagesse divine est tellement grande que on ne devrait même pas être capable, même pas de savoir même un mot de Torah. On ne devrait même pas être capable de comprendre. Tu as réussi à comprendre un mot de Torah, tu sais la chance que tu as. Tu sais la chance que tu as d'être capable de comprendre un mot de Torah. C'est une chance extraordinaire. Et ça, il faut remercier Kadosh Baruch Hu pour ça.
Et en même temps, je me fais plaisir.
D'accord. Bien sûr, tu te fais plaisir, mais tu comprends que c'est une chance que tu as. Tu peux te faire plaisir, pas de problème. Ça peut être par intérêt, comme tu as dit. Tu as raison.
Ouais, c'est un intérêt personnel, mais parce que je me fais plaisir.
C'est un intérêt, mais je sais que ça tourne autour de Dieu, pas tant de moi. C'est une chance que j'ai. Je réalise la chance que je pourrais étudier là-dedans. Ashreinu matof relkenu. Qu'est-ce qu'on lit tous les matins? Ashreinu matof relkenu, shanu mashkimi, umarim, erev avokar, vamrim, pamaim, bechol yom, shma Israël, Hashem ekun, Hashem echad. On dit, combien on est heureux qu'on peut se lever tous les matins et qu'on peut faire tous les soirs dire shma Israël. Combien on est heureux? Mais dit, mais non, shma Israël, on accepte la souveraineté de Dieu. C'est lui qui est heureux. Non! C'est pas lui qui est heureux, c'est nous qui sommes heureux de pouvoir accepter le jour divin. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que je suis heureux de pouvoir être l'esclave de Dieu. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Pas Dieu, il est heureux d'avoir un esclave comme moi. Non. Je suis heureux de pouvoir être l'esclave de Kadosh Baruch Hu et de pouvoir réaliser. Il y a des gens qui vivent dans l'obscurité.
Et on peut être fier de heureux Dieu aussi.
Bien sûr. Je peux être fier de, mais encore une fois, ça tourne autour de Dieu, pas autour de moi. C'est pas égocentrique. Quand c'est égocentrique, c'est la catastrophe. Tu peux être juif religieux égocentrique. Tout autour de toi. Moi.
Je suis bien moi.
D'accord. Moi je suis bien moi et on me doit ci, on me doit ça et pourquoi pas ci et pourquoi pas ça. D'accord. Mais c'est vrai, je parle pour moi. On peut être comme ça, on peut être religieux et égocentrique. Et d'un autre côté, t'as des gens qui sont pas religieux et qui sont pas comme ça. C'est ce qu'il dit ici le Tania. Il dit que le Benoni, la deuxième partie de son travail, c'est premièrement, c'est de se battre, ça c'est l'essentiel. Et deuxièmement, c'est que constamment il fait un effort pour comprendre que moi je suis rien devant Kadosh Baruch Hu. Je suis rien du tout. Comme dit Avraham Avinu dans la paracha de la semaine dernière, il a dit « V'anori afar va'efer ». Moi, devant toi, Dieu, je suis seulement comme de la poussière et comme de la cendre. Et il le pensait. C'est pas Stam, il a dit. Parce que rappelez-vous, « Pif velibo shavin ». La bouche et le cœur doivent être égaux. D'accord? Donc, ce qu'il explique ici. Alors, bon, je vais prendre le temps de finir. On va accélérer un petit peu pour terminer. Alors, pour terminer le... D'accord, encore quelques lignes. Il dit... De la même manière, quand la réflexion est bonne, quand j'ai compris dans ma tête que c'est moi qui dois Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, c'est automatique. Automatiquement, quand on me propose après de mettre les tefilin, quand je dois faire une mitzvah, mon corps ne s'oppose plus à la mitzvah. Parce que quand ma tête a déjà compris ce qu'il faut faire, eh ben mon corps, c'est automatique. Quand maintenant je dois manger un bon repas, est-ce que mon corps va s'opposer à ce repas? Non, parce que ma tête a compris que le repas est bon, donc c'est sûr que je vais y aller, c'est la même chose. Quand tu as compris qu'il y a une chance tu as de faire la mitzvah, est-ce que ton corps va s'opposer à faire la mitzvah? Non, il ne s'oppose pas, parce qu'il est content de faire la mitzvah. C'est un honneur pour moi de faire la mitzvah. Je suis content, c'est un privilège que je peux faire la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il te dit ici. Arrêtez-vous, Nazo, mit la béchette, mais ma sé, dibour, marchevet, à Torah, mitzvatea, liot, lachem, prinat, mochin, vechayout, vegadfin, et pachalela. J'accélère un peu parce que j'expliquais à l'oral. Dit que, automatiquement, quand tu as ça, la mitzvah, elle décolle. Dans une mitzvah, on peut accomplir une mitzvah de manière sèche. Et on peut accomplir une mitzvah avec l'amour et la crainte de Dieu. C'est quoi l'amour et la crainte de Dieu? C'est ça, ce que c'est l'amour et la crainte de Dieu. L'amour, sentir comment Dieu est grand. La crainte, sentir le respect d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais une mitzvah, mais qu'avant de faire la mitzvah, tu dis c'est moi qui rends service à Dieu, ta mitzvah, elle décolle. Elle a des ailes. Le Zohar, il dit qu'une mitzvah qui n'a pas d'amour et de crainte, c'est une mitzvah qui n'a pas d'ailes. Et pour ceux qui sont le plus anciens, hein, petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes, hein, tu peux pas voler, on est d'accord. Voilà. Parce que c'est ça le pshat, c'est ce qu'il te dit ici. Tu n'as pas d'ailes. C'est quoi les ailes? Les ailes, c'est réaliser l'ampleur de la mitzvah, et grâce à ça, on peut décoller. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Bachafetza, bachacheka, ou tchouka, mon gréchabé libou, mon afchatzma, la chaîne, et pne richpèche, la vôtre chevé libou canal. O il, ou dvou, nazo, chevé mochov, t'as le mot libou, je lis dans les mots, comme ça on lit dans les mots, c'est important, mais bon, on a terminé, en fait, à l'oral, j'ai expliqué. D'accord? O il, ou dvou, nazo, chevé mochov, t'as le mot libou, ia me viato, la sec bahem, ve loulé, chaya, mit balé, dvou, nazo, la yo sec bahem klal, et la betsoche goufo bilvad, ve gami matmit, bien libou de betivo, afal piquet, ouev et goufo, et termetivo. Donc, j'explique ce qu'il vient de dire ici. En fait, on les expliquait, d'accord, longuement. Qu'en vérité, il te dit, pourquoi on appelle ça la chassidut Rabad? Pourquoi on insiste beaucoup sur la réflexion? Parce qu'il te dit, si tu n'as pas la réflexion, ça marche pas. Même si tu crois que ça marche parce que maintenant t'as envie de le faire. Et demain, si t'as pas envie de le faire, tu vas t'arrêter? Si dans ta tête, c'est pas dans tes tripes, c'est pas au fond de toi que tu as compris ça, que c'est moi qui dois Kadosh Baruch Hu, ça marche pas. Voilà pourquoi c'est très très important, et dans la chassidut Rabad, on insiste énormément sur la réflexion. Sur le travail de réflexion. Sur le travail, c'est une éducation qu'on doit se faire. Je dois m'éduquer. Je dois comprendre qu'il y a un problème. Et quand tu t'éduques, même si j'ai pas changé tout de suite, mais le fait qu'il y ait une éducation, eh ben, à long terme, je change. Et quand je change vraiment, d'accord? Je change réellement pour de bon. C'est très important. Et ça, la Gemara Zaken, il dit que même si tu as une personne qui est dans le Benoni de catégorie 1, ça veut dire le Benoni qui est routinier, rappelez-vous ce qu'on avait dit, c'est-à-dire celui que, oh, le Sahara le dérange pas. Même lui. Aujourd'hui, son Sahara le dérange pas, et qui te dit que demain, son Sahara le dérangera pas? Il t'attend au tournant. Il t'attend à la porte, comme c'est écrit dans la parasha Bereshit. Il faut tout le temps se faire un travail d'éducation dans sa tête pour réfléchir qu'en vérité, je dois rien, Dieu me doit rien, c'est moi qui dois tout à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et qu'au contraire, c'est un honneur pour moi, c'est un bonheur pour moi, c'est un privilège pour moi de travailler pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'il explique ici que, et le rabbi dit comme ça, il dit qu'en particulier dans notre génération, qui est la génération qui est avant Mashiach, une génération comme la nôtre, que c'est très difficile de sentir quelque chose. On est dans une génération dans laquelle c'est très difficile de sentir qu'on aime Akadosh Baruch Hu, que les sentiments sont vraiment très 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 fins. Et bien, étudier dans notre génération, il faut insister particulièrement sur la réflexion. Et c'est pour ça que je terminerai avec ça. Le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle dans les générations d'avant, les gens ils faisaient la Torah et les mitzvot sans réfléchir. Quand on demande à quelqu'un, on lui dit pourquoi tu fais Torah et mitzvot, pourquoi tu fais Shabbat, c'est comme ça. Pourquoi aujourd'hui, on doit venir à deux cours de Torah pour expliquer? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui est très faible et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à ressentir les choses. On a beaucoup de mal à sentir les choses. Avant, directement, leur cœur était ouvert vers Dieu. Donc c'est pour ça qu'ils avaient très peu besoin d'étudier. De nos jours, plus on s'approche d'un Mashiach et plus les sentiments ont beaucoup, beaucoup de mal à venir. Donc pour qu'un sentiment vienne, il faut réfléchir pour qu'à la fin, il y aura un sentiment. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant. Et que même si nos parents, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents, ils venaient pas forcément à des cours comme nous, nous, on a besoin plus de cours qu'eux. Parce que nous, comme nos sentiments décollent très doucement, et que si déjà il y a un sentiment, malheureusement, il n'est pas pour les bonnes choses, et bien c'est pour ça qu'il faut faire un effort pour venir à des cours de Torah, pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que la Torah représente pour moi. Comme ça, grâce à ça, peut-être qu'on va réussir à faire décoller un sentiment. Et bon, ça c'est le deuxième message qu'on a au Benoni. Premièrement, on lui a dit, ce qui compte, c'est de te battre. Deuxièmement, on lui dit, ce qui compte, c'est d'essayer de réfléchir un maximum qu'est-ce que Dieu représente pour toi, et que c'est toi qui dois à Dieu et pas Dieu qui te doit. Et peut-être qu'avec le temps, à force de réfléchir à ça, eh ben, ça va faire que tu auras un sentiment d'amour réel envers Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, d'accord, on va développer un peu plus long encore. Voilà. Ça va être petit. La semaine prochaine, il va s'arrêter sur les ailes. C'est quoi les ailes, les mitzvot, etc. On va s'arrêter les ailes. La kavana de la mitzvah. Ah. La kavana.
T'as le bonsoir de Edith Wittou.
Merci. On fait.